Zéro. Merci Jean. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir les internautes qui j'espère nous ont rejoints maintenant. Bonsoir Stéphane Le Maire. Donc bienvenue pour cette cinquième carte blanche qui a commencé, comme vous le savez, en janvier 2021. Avant que nous allions dans le vif du sujet, je vais faire quelques petites annonces. En particulier concernant la prochaine carte blanche qui se déroulera le 21 juin. Alors le 21 juin, c'est aussi la fête de la musique, mais je pense que la fête de la musique dure toute la nuit, donc ça ne vous empêche pas de venir et nous vous accueillons, bien sûr, pour une carte blanche qui sera présentée par Jean-Marc Lévy-Leblond, physicien, essayiste, que nous avons vu plusieurs fois ici à l'Institut d'astrophysique, puisqu'il connaît très bien l'astrophysique, et qui viendra, la carte blanche qui est proposée par l'Union rationaliste, s'intitule « Dieu, l'épreuve à l'épreuve ». Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, il y a quelques mois, un ouvrage publié par Vincent Bolloré, le frère de Bolloré, acteur de presse bien connu, eh bien, où, spéculant sur la cosmologie moderne, il prétend dans ce livre que la cosmologie apporte des preuves matérielles à l'existence de Dieu. Alors évidemment, ça nous a fait bondir et sursauter. Et donc c'est pour cette raison que nous avons décidé de donner une carte blanche à Jean-Marc Lévy-Leblond, qui avait écrit à l'époque un petit article, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, pour effectivement contester cette interprétation. Voilà. Une autre nouvelle très importante, c'est à l'Institut d'astrophysique, le 4 juin, est organisée une nuit de l'astronomie, c'est cela ? Je ne veux pas dire de bêtises, une nuit d'astronomie où nous vous accueillons toute la nuit. Il y aura des débats, des discussions, des conférences jusqu'à l'aube et aussi des observations du ciel à ce moment-là. Alors, ce 4 juin, il y a un thème quand même, et le thème c'est Planck rencontre Einstein. Je ne me trompe pas, je dis tout ça sous l'autorité de Jean Mouette, qui est un des co-organisateurs. Planck, c'est bien sûr un physicien, un grand physicien, qui est le fondateur de la mécanique quantique, c'est-à-dire la physique des atomes et des molécules, et Einstein, le père de la relativité. Et donc, voilà, ces deux mondes se rencontrent, le monde de l'infiniment petit et le monde de l'infiniment grand. Ces deux mondes dont, bien sûr, s'est emparée l'astrophysique, puisque l'astrophysique, pour comprendre les phénomènes qui nous intéressent, eh bien, on a besoin de maîtriser, d'essayer de maîtriser ces deux théories, ces deux concepts. Voilà. Mais ce soir, c'est autre chose. Ce soir, nous avons affaire à des conférences sciences-société, en ce qui nous concerne ici, c'est le stockage numérique, la révolution de l'ADN. Je vais donc, je suis très heureux d'accueillir Stéphane Le Maire, que je ne connaissais pas, donc j'ai appris à connaître depuis que nous vous avons invité. Je cherche mes petites notes, là, voilà. Je vais vous dire simplement qu'il est directeur de recherche au CNRS, qu'il travaille au laboratoire de biologie computationnelle et quantitative, à laboratoire de l'Institut de biologie Paris-Seine, c'est bien cela ?
Tout à fait.
Voilà, qui se situe sur le campus de Jussieu. Mais au-delà de cette fiche qui vous permet de vous localiser, ce qui m'a intéressé, c'est ce que vous voulez dire, j'avoue, j'étais très surpris, stockage des données sur l'ADN, une technologie révolutionnaire. Alors à ce stade, je devrais m'arrêter parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus. J'ai quand même été regarder une interview de vous sur Internet que l'on trouve, une interview croisée avec, je ne sais pas qui a fait cette interview, mais on y apprend beaucoup de choses. On apprend que, effectivement, le stockage, mais ça on le savait, des données, c'est un enjeu pour tout le monde, que les seuls qui ont réussi à stocker des données sur au moins 4000 ans sans se tromper et sans faire d'erreur sont les Égyptiens avec les hiéroglyphes. On sait que ça tient, que ça marche. Mais depuis quelques années, on sait qu'on a toujours des problèmes pour rafraîchir les données, changer de support, etc. Donc ça devient vraiment un problème crucial. Alors moi, j'étais stupéfait d'apprendre qu'on pouvait effectivement développer cette technologie innovante qui était le stockage sur ADN Et comme vous allez nous le dire, je dévoile un petit peu quelque chose, c'est qu'il était possible de stocker par cette méthode la déclaration des droits de la femme, je donne la moitié de l'information, et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Voilà. Donc, vous allez nous parler des supports, de cette technique, bien entendu, et d'où est venue cette idée. Et qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu aussi que, évidemment, toute technologie présente des risques. Donc, c'est une des questions que je me suis posées. Dès qu'on touche à la biologie, on a toujours certaines réticences. On a bien vu ce qui s'est passé, même quand on essaye de soigner les gens avec l'aide de la biologie. Bien, on voit que... Il y a quand même des réticences, donc là, je pense que ça, c'est un problème qui risque de se poser. Et comme, bien entendu, vous êtes chercheur, vous ne travaillez pas tout seul, vous travaillez avec des collaborateurs, en plus, il s'agit d'un travail pluridisciplinaire, donc je suis très impressionné par ce parcours qui me paraît emblématique de ce que doit être effectivement le travail de recherche aujourd'hui, qui n'est pas toujours connu, ni compris par le public. Et je me réjouis de vous entendre et d'en savoir plus. Et donc, je me tais, je vous laisse la parole.
Ben merci pour cette introduction détaillée et puis pour cette invitation à présenter nos travaux dans le cadre de ces conférences. Donc, comme on vient de vous l'annoncer, je vais parler de stockage numérique avec une nouvelle technologie qui est basée sur l'utilisation de l'ADN. Alors, ces travaux sont issus de mon laboratoire, et mon laboratoire est un laboratoire de biologie, et plus spécifiquement de biologie synthétique. Donc, je vais commencer par ce domaine de recherche qui est celui sur lequel on travaille depuis un certain nombre d'années, en commençant par vous dire que toutes les sciences expérimentales doivent être successivement descriptives, puis analytiques, puis synthétiques. Je m'explique. Si je prends l'exemple de la chimie, on a commencé d'abord par décrire les molécules existantes dans la nature, puis avec les progrès techniques, on a commencé à les analyser, commencé à comprendre la structure de ces molécules. Et au milieu du 19e siècle, on a commencé, grâce à ces connaissances issues de l'analyse, à synthétiser des nouvelles molécules. D'abord des molécules existantes déjà dans la nature, puis des nouvelles molécules qui n'existent pas dans la nature, telles que les plastiques, par exemple. Et la biologie est en train de suivre exactement le même parcours. Elle était d'abord descriptive, puis analytique. Et 150 ans après la chimie, elle est aujourd'hui en train de passer à l'étape synthétique. Alors, si on réfléchit à ce que signifie la synthèse par rapport à l'analyse, en fait, l'analyse, ça consiste à prendre un système complexe, par exemple un être vivant, et à l'analyser, c'est-à-dire le décomposer en ses briques élémentaires. Et en analysant ces briques élémentaires, on comprend le fonctionnement du système complexe. La synthèse, c'est exactement l'inverse. C'est partir de ces briques élémentaires et construire un système complexe. Et en construisant, la construction permet la compréhension. En fait, mon propos, c'est de dire que la synthèse est une méthode puissante d'investigation et de compréhension, et que la synthèse et l'analyse sont en fait complémentaires. Alors, il y a une phrase fétiche pour les biologistes de synthèse qui vient de Richard Feynman. Richard Feynman est un prix Nobel de physique de 1965 qui a écrit cette phrase « What I cannot create, I do not understand », qui est une illustration que la construction est la preuve ultime de la compréhension. Alors la biologie synthétique ou biologie de synthèse, c'est la conception et la construction de nouveaux systèmes biologiques. Alors un nouveau système biologique, ça peut être un gène, une enzyme, un circuit génétique, une cellule, un tissu ou même un organisme entier. La biologie de synthèse, c'est également la reconception de systèmes biologiques existants pour, par exemple, aider à la production de molécules qui ne sont pas naturellement produites par des êtres vivants, comme des biocarburants, par exemple. Donc la biologie synthétique, c'est une discipline formelle à l'interface entre l'ingénierie et la biologie. Et cette discipline, elle vise à construire des systèmes biologiques pour deux raisons. La première, c'est pour répondre à des questions fondamentales en biologie, avec des nouvelles approches et de nouveaux concepts. C'est la compréhension par la construction. La deuxième, qui est plus visible, c'est de construire des systèmes artificiels pour des applications en biotechnologie ou en santé. Alors même si c'est une discipline très récente, qui a commencé au début des années 2000, il y a déjà un certain nombre de réalisations de la biologie synthétique qui sont visibles dans ces deux aspects. Du côté de la recherche fondamentale, on a pu synthétiser des génomes d'organismes entièrement synthétiques et explorer une question fondamentale en biologie qui est la définition de la vie, quel est le nombre de gènes minimum pour que la vie puisse exister. Et puis du côté plus appliqué, il commence à y avoir de nombreuses applications de biologie synthétique, en particulier dans le domaine des matériaux. On peut faire des tissus biofabriqués, des colorants, des bioplastiques, même du biobéton. Il y a beaucoup d'applications en agroalimentaire, et en particulier l'agriculture cellulaire, qui consiste à cultiver des cellules pour produire de la viande plutôt que d'élever des animaux. Il y a énormément d'applications en santé. La plus visible est l'immunothérapie, qui consiste à reprogrammer des lymphocytes pour leur apprendre à reconnaître et donc tuer des cellules cancéreuses. Il y a énormément d'applications dans le domaine des cosmétiques, des parfums, en fait dans tous les domaines où il y a de la pétrochimie, puisque théoriquement la biologie peut remplacer toute la pétrochimie, ou la majeure partie de la pétrochimie. Il y a des applications sur la transition environnementale, avec les biocarburants par exemple. On pourrait produire des carburants avec des plastiques d'ailleurs avec des systèmes biologiques. Et puis, il y a une autre application, plus inattendue, dans le domaine du numérique, qui consiste à utiliser la biologie pour stocker des données ou pour faire des calculs. Et donc, c'est de ce domaine-là dont je vais vous parler. L'équipe dans laquelle l'équipe que je mène s'appelle Biologie synthétique des microalgues, parce que les organismes que nous reprogrammons sont des microalgues. Les microalgues, ce sont des plantes microscopiques. Elles ont un ancêtre commun avec les plantes, c'est dans la même lignée que les plantes. Elles sont capables de fixer du CO2 atmosphérique et d'utiliser l'énergie lumineuse, c'est-à-dire de réaliser la photosynthèse, pour produire des molécules carbonées. Et donc, dans mon équipe, on conçoit et on reconçoit ce type de système biologique des microalgues pour, par exemple, produire, pour remplacer la pétrochimie, pour produire des biocarburants ou des bioplastiques. Et pour faire ça, on manipule le génome de ces organismes, donc on manipule de l'ADN. Par la force des choses, on est devenu des experts de la manipulation de l'ADN, puisque c'est la matière première que l'on manipule pour pouvoir faire ces reprogrammations génétiques. Et dans ce cadre-là, avec ce savoir-faire, on a souhaité l'utiliser pour l'appliquer à un domaine complètement différent, qui est le stockage numérique sur ADN. C'est un sujet qui est à l'interface entre la biologie et l'informatique et qui touche essentiellement au domaine de l'informatique pour la première partie de mon exposé. Donc, le stockage numérique, il est en croissance exponentielle. Il y a une transformation numérique de notre société que vous constatez qui n'en est qu'à ses débuts. Elle va continuer à se développer, en particulier la convergence du big data et de l'intelligence artificielle induit cette transformation. Et cette convergence, cette transformation, nécessite de stocker de plus en plus de données, parce que les données sont le carburant de l'intelligence artificielle. s'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'apprentissage, et donc il n'y a pas d'intelligence artificielle. Les données, l'ensemble des données stockées dans le monde, ce qu'on appelle la datasphère, c'est-à-dire les données stockées sur tous les disques durs et toutes les bandes magnétiques de tous les data centers du monde, ça représente aujourd'hui 45 zeta-octets. On estime que d'ici 2025, ça représentera 175 zeta-octets. Quasiment 5 fois plus. Et vous voyez la croissance exponentielle du besoin de stockage. Alors, un zeta-octet, on a du mal à s'imaginer ce que ça représente. C'est 10 puissance 21 octets. Mais même si je vous dis ça, vous ne pouvez pas vous représenter ce que ça représente. Donc, si j'imagine que vous avez une connexion Internet très rapide, une connexion fibre, comme ça existe dans la plupart des grandes villes, et que vous voulez télécharger un zeta-octet, il vous faudra 2,5 millions d'années. C'est juste une image pour vous représenter qu'un zeta-octet, c'est une quantité de données gigantesque. Alors, cette croissance du besoin de stockage de données, elle est liée à tous les secteurs, mais il y a 4 secteurs qui sont principalement source de ce besoin de stockage de données. Et c'est ces 4 secteurs qui sont représentés ici, qui ont eu une croissance ultra rapide du besoin de stockage. Le premier, c'est la santé et la recherche scientifique, donc l'imagerie, la génomique, la médecine personnalisée. Une IRM, aujourd'hui, ça stocke 100 fois plus de données qu'une IRM il y a 10 ans, parce que la résolution des images et le nombre d'images stockées est en augmentation. Mais aussi, de très nombreuses disciplines. L'astrophysique nécessite de stocker énormément de données, la physique des particules, mais aussi tout ce qui est environnement, écologie, génomique. Les services financiers génèrent aussi beaucoup de données, 10 zeta-octets d'ici 2025, l'équivalent de la recherche scientifique et la médecine. Le domaine auquel on pense en premier, c'est les médias et les divertissements, c'est-à-dire tout ce qui est réalité virtuelle, streaming vidéo, jeux vidéo, réseaux sociaux. Mais en fait, c'est la moins importante pour ce besoin de stockage, puisque c'est 6 zeta-octets d'ici 2025. Ce qui va nécessiter de stocker beaucoup de données, c'est l'industrie. Et pourquoi l'industrie a besoin de stocker de plus en plus de données? C'est parce qu'il y a de plus en plus d'objets connectés. Et tous ces objets connectés génèrent énormément de données, un smartphone génère énormément de données, et ces données sont stockées quelque part. L'automatisation nécessite également de stocker beaucoup de données. Un véhicule autonome, par exemple, génère 3 téraoctets de données par heure par véhicule. Donc c'est un besoin de stockage gigantesque. Et parmi toutes ces données, il y a un type de données particulier qui s'appelle les WORM. C'est des données cet acronyme représente Write Once, Read Never. C'est-à-dire, ce sont des données qu'on écrit une fois, mais qu'on ne relit jamais. Ou, pour être plus précis, presque jamais. Ce sont toutes les données de sauvegarde, toutes les données de backup, toutes les données de réplication qui sont là au cas où. On a besoin d'être sûr qu'on pourra les relire si nécessaire, mais la plupart du temps, 99% de ces données ne sont jamais relues. Et ces données, WORM, représentent plus de 70% des données mondiales. Plus de 70% des données mondiales sont des archives. Plus de 70% des données des data centers sont des archives. Elles ne sont pas sur des disques durs, elles sont stockées sur des bandes magnétiques. Donc une technologie très ancienne, mais qui est encore utilisée pour stocker nos données, ce type de données qu'on appelle des données froides. Alors une bande magnétique, j'imagine que vous n'avez pas vu ce que c'est une bande magnétique, donc en fait, j'en ai apporté une ici. Vous voyez, ça fait la moitié d'une cassette VHS pour ceux qui ont connu les VHS. Donc c'est une bande qui se déroule à l'intérieur, exactement comme une cassette VHS, et qui se met dans un lecteur qui ressemble beaucoup à un magnétoscope, et qui permet de relire ces données. Alors dans un data center, une armoire de lecture une armoire de lecture de bandes magnétiques, donc c'est une gigantesque armoire qui stocke un très grand nombre de bandes magnétiques et qui peuvent être relus, donc c'est entièrement robotisé, qui peuvent être relus à la demande. Donc beaucoup de ces données en data center sont hors ligne ils sont stockés sur des bandes magnétiques, et lorsque c'est nécessaire, si on veut générer un backup ou restaurer des anciennes données, on utilise des bandes magnétiques. Et les supports numériques actuels posent beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils sont fragiles. Ça a été évoqué tout à l'heure dans l'introduction. Qu'il s'agisse de bandes magnétiques, de disques durs, de mémoire flash, de disques optiques, CD, DVD, Blu-ray ou de bandes magnétiques, leur durée de vie n'excède pas 5 à 7 ans. J'imagine que vous avez, pour la plupart d'entre vous, déjà été confronté à une perte de données liée à un disque dur défectué, une clé USB défectueuse. C'est une illustration de cette fragilité de ces supports. Dans un data center, les disques durs sont remplacés tous les 3 ans. Le deuxième problème, c'est que ces supports sont volumineux. Si on mettait les 175 étaoctets prévus pour 2025 sur les supports optiques les plus denses qu'on a, les Blu-ray, on obtiendrait une pile de Blu-ray qui fait 23 fois la distance de la Terre à la Lune. Donc les data centers mondiaux, ils occupent une surface qui est un peu moins de 2 fois la surface de Paris. On pourrait penser que c'est relativement raisonnable pour l'ensemble de la planète. C'est 1/1000ème de la surface émergée du globe. Mais au rythme actuel, on estime que d'ici 2040, ce sera 1/1000ème de la surface émergée du globe, ce qui n'est plus du tout négligeable. Troisième problème, ces stockages numériques sont énergivores. Les data centers mondiaux consomment aujourd'hui 2% de la consommation électrique mondiale, et dans certains pays, c'est 20 ou 30%. Les pays où il y a beaucoup de data centers en particulier. Et l'empreinte carbone des data centers, elle est déjà supérieure à celle de l'aviation civile. Et cette consommation énergétique et cet impact, il est proportionnel à la quantité de données. Donc si on veut stocker 5 fois plus de données, ça implique une consommation électrique et une empreinte carbone multipliée par 5, ce qui est difficilement envisageable vu le contexte environnemental actuel. Donc pour toutes ces raisons, le stockage numérique a un impact environnemental qui est considérable. Et malgré cet impact, on est aujourd'hui pas capable de stocker les données. En fait, depuis 2010, on ne peut plus assurer le besoin de stockage. Aujourd'hui, on estime qu'on peut stocker environ 30% de l'information qu'on génère. D'ici 10 ans, ce sera 3%. Parce que les disques durs, les bandes magnétiques font des progrès, mais pas aussi vite que l'augmentation du besoin de stockage. Et donc l'écart entre le besoin et la capacité de stockage se creuse d'année en année. Et ce graphique ici s'arrête en 2020, donc cet écart est beaucoup plus grand encore aujourd'hui. La transformation numérique, à laquelle on assiste tous, elle nécessite donc une profonde révolution de nos technologies de stockage. Et il existe une autre forme de stockage que l'on peut trouver dans la nature, qui n'a pas été inventée par l'homme et qui se perfectionne depuis 4 milliards d'années, c'est l'ADN. L'ADN, c'est le support de l'information génétique. C'est ce que les êtres vivants utilisent pour transférer l'information d'une génération à une autre. Alors l'ADN, c'est cette fameuse double hélice qui est composée de nucléotides ou de bases qui sont symbolisées par les 4 lettres A, C, T ou G. Donc le stockage fait par le vivant, c'est un stockage à très haute densité puisqu'il y a, pour chacune de ces lettres, il y a l'équivalent d'environ 50 atomes. Et dans chaque cellule de notre corps, il y a l'équivalent de 700 mégaoctets de données sous forme d'ADN. Ça veut dire que dans chaque humain, il y a une quantité d'ADN qui correspond à 2,7 zétaoctets. Ça veut dire qu'on pourrait stocker l'intégralité des données mondiales dans l'équivalent de l'ADN d'une vingtaine de personnes. Et l'ADN a de nombreux avantages au regard des inconvénients des supports actuels. Le premier, c'est que l'ADN est une molécule stable. C'est une molécule extrêmement stable. C'est un polymère de ces 4 lettres ATGC, et les polymères, comme les plastiques, sont extrêmement stables. L'ADN est même encore plus stable. On le sait déjà, puisque la police scientifique, par exemple, utilise l'ADN pour résoudre des enquêtes criminelles, même après de nombreuses années. Les scientifiques l'utilisent pour explorer le passé. On a été capable de reconstituer, à partir de cette défense de mammouth, un génome complet de 1,6 million d'années. Donc, je ne parle pas de petits fragments d'ADN, je parle du génome en entier. Et l'ADN est donc à une stabilité qui est vraiment incomparable, qui se mesure en dizaines ou centaines de milliers d'années, qui est incomparable avec nos supports actuels qui sont 5 à 7 ans. Le deuxième avantage de l'ADN, c'est que c'est extrêmement compact. L'ADN stocke l'information, la densité maximale, c'est 0,45 zeta-octets par gramme. C'est à cette densité-là que le vivant stocke l'information. Ça fait 450 millions de teraoctets par gramme d'ADN. Ça veut dire que les 45 zeta-octets, c'est-à-dire toutes les données du monde, toutes les données numériques de tous les data centers du monde, pourraient tenir dans 100 grammes d'ADN, l'équivalent du volume d'une tablette de chocolat. Et troisième avantage de l'ADN, c'est que son stockage est non énergivore, parce que l'ADN peut être stable à température ambiante si on le conserve dans les bonnes conditions. Et ces conditions, on les connaît, et il y a des technologies robustes d'encapsulation de l'ADN qui ont été développées pour stocker de l'ADN pour les applications médicales, mais qu'on peut utiliser pour stocker l'ADN dans des petites capsules comme celles que j'ai ici dans la main, là. Qui permettent de stocker l'ADN sous forme lyophilisée, sous atmosphère inerte et dans une capsule métallique, c'est-à-dire à l'abri de l'eau, de l'air et de la lumière, les trois facteurs principaux de dégradation de l'ADN. Et dans ces conditions, avec cette capsule qui a été développée par une entreprise issue de la recherche académique qui s'appelle Imagen, on considère que l'ADN est stable pendant plus de 50 000 ans dans ce type de contenant. Et cet ADN, cette capsule, permet de conserver l'ADN à température ambiante à n'importe quel endroit sur Terre. On peut même la faire bouillir, l'ADN reste stable. Donc pour ces trois raisons, le fait que l'ADN est durable, résistant, compact, et que son stockage est non énergivore, on considère aujourd'hui que c'est la meilleure solution dont on dispose pour remplacer nos supports de stockage polluants et énergivores par des supports éco-responsables. Il y a un deuxième avantage à l'ADN, c'est que ce média ne sera jamais obsolescent. Si je vous donne une disquette des années 80, vous ne pourrez pas la lire, à supposer que les données dessus soient encore intactes, ce qui ne sera pas le cas, mais vous ne pourrez pas la lire parce que vous n'avez pas de lecteur. Bientôt, il n'y aura plus de lecteur de CD. Donc, c'est obsolescence des supports de stockage, elle existe et c'est un problème pour la migration des supports. L'ADN, lui, sera jamais obsolescent parce que la vie ne va pas changer de support de l'information. Donc on aura toujours des machines, des séquenceurs pour lire l'ADN parce qu'on en a besoin pour la biologie et pour la médecine. Alors cette idée de stocker l'information numérique sur ADN, elle a été suggérée il y a longtemps, en fait, elle a été suggérée par Richard Feynman, toujours le même, en 1959, dans un discours de la Société américaine de physique, dans lequel il imaginait que peut-être un jour on pourrait manipuler ces molécules et qu'on pourrait faire du stockage à l'échelle moléculaire. Et donc, il a suggéré que si c'était le cas, on pourrait utiliser ce type de molécule pour stocker des données numériques. Alors, entre cette première idée, qui a été formulée quelques années après la découverte de la structure de l'ADN, et la première démonstration, il a fallu attendre quelques années, puisque la première démonstration, c'est 2012. George Church, de Harvard, a fait cette première démonstration. Il a encodé quelques centaines de kilooctets sur ADN, et il a pu montrer que ce support de stockage permettait d'écrire des données, de relire les données, et surtout qu'il était des millions de fois plus dense que les meilleurs disques durs ou mémoire flash à cette époque-là. Alors, pour faire ça, il a utilisé la synthèse chimique d'ADN, et le temps entre l'idée et la démonstration a été lié au fait qu'il a fallu développer cette technologie de synthèse chimique et la rendre économiquement abordable. Il n'était pas envisageable 10 ans plus tôt d'utiliser de la synthèse chimique d'ADN pour faire du stockage parce que ça coûtait vraiment trop cher. Et donc si on veut encoder de l'information numérique sur ADN, il faut convertir des données qui sont binaires, donc juste des 0 et des 1, en des données quaternaires, qui sont les 4 lettres A, C, T, G. Alors il existe très très nombreuses façons de faire cette conversion, mais je vais vous donner l'exemple des deux qui sont le plus utilisés et qui sont les plus simples. Le premier, c'est l'encodage à 2 bits par base, en stipulant que A est égal à 0,0, C à 0,1, T à 1,0 et G à 1,1. On peut encoder n'importe quel fichier binaire. La deuxième façon d'encoder, utilisée, et celle qui a été utilisée par George Church pour sa première démonstration, c'est l'encodage à 1 bit par base, où on décrète que A et C sont égales à 0 et T et G sont égales à 1. Et à ce moment-là, on peut aussi, sur un ADN, encoder n'importe quel type d'information numérique. Alors pour stocker de l'information numérique sur ADN, ben en fait on prend un fichier binaire fait de 0 et de 1, on le convertit avec le code de conversion qu'on a déterminé, par exemple 2 bits par base ou 1 bit par base, pour faire une séquence d'ADN, et ensuite on écrit, on synthétise cet ADN chimiquement, parce qu'on a la technologie pour le faire maintenant, et pour un coût qui est encore élevé, mais qui est désormais abordable pour des petits volumes de données, et ensuite on le stocke. Et lorsqu'on veut le relire, on utilise un séquenceur, j'y reviendrai juste après, qui permet de récupérer la séquence ADN et ensuite elle est reconvertie dans l'autre sens pour récupérer le fichier binaire et permettre de le relire. Alors, pour faire ce stockage sur ADN, George Church a utilisé des petits fragments d'ADN parce que la synthèse chimique d'ADN, elle est faisable, mais elle a des limites. Et la principale limite, c'est qu'on ne peut pas faire des morceaux de plus de 200 bases. Au-delà, il y a trop d'erreurs. Donc ces morceaux, ce sont des fragments d'ADN simple brin, ce n'est pas une double hélice, c'est juste un brin d'ADN qui est synthétisé chimiquement. Donc ce n'est pas compatible avec le vivant. Il fait 200 bases maximum, donc si on veut encoder une quantité d'informations spécifiques, donc ces molécules s'appellent des oligonucléotides, ces petits fragments d'ADN, si on veut encoder une information significative, il en faut beaucoup. Donc pour quelques centaines de, pour 650 kilooctets, George Church a utilisé plus de 50 000 de ces fragments d'ADN, 50 000 oligonucléotides. Donc ils sont représentés ici, les siens faisaient 159 bases, et ils ont une portion qui contient la donnée, représenté en violet ici, et une portion qui contient un index, parce qu'il faut pouvoir remettre ces 50 000 oligonucléotides dans le bon ordre pour pouvoir relire la séquence. Donc c'est l'index qui permet de l'erreur donnée, puis les extrémités, c'est des choses qui sont communes à tous les oligonucléotides et qui permettent d'amplifier le signal. Alors depuis cette première démonstration, il y a eu une dizaine d'autres démonstrations de stockage numérique sur ADN, qui vont de 1 kilooctet jusqu'à 200 mégaoctets. Toutes ces démonstrations ont été faites avec la même technologie, basée sur des petits fragments d'ADN, des oligonucléotides, avec un encodage à entre 0,2 et 1,9 bits par nucléotide. La plus grosse démonstration, c'est celle qui a été faite par Microsoft, en collaboration avec l'Université de Washington et Twist Bioscience. Et ils ont encodé 200 mégaoctets. Pour ça, ils ont dû utiliser 13,4 millions d'oligonucléotides. Ça commence à être assez complexe. Et ils ont cumulé toutes les avancées des années précédentes, en particulier des codes correcteurs d'erreurs, une nouvelle technologie de synthèse ampoule plus économique, une capacité à aller relire spécifiquement une partie de la donnée sans avoir besoin de relire l'intégralité des données, les dernières technologies de séquençage, et puis des algorithmes permettant de faciliter la lecture. Alors pour lire l'ADN, je vous ai dit, on utilise des séquenceurs. Alors le séquençage d'ADN, il a été inventé à l'origine par Frédéric Sanger, qui a reçu pour ça le prix Nobel en 1980. Donc cette méthode, qui s'appelle le Sanger Sequencing, a d'abord été, dans les années 80, automatisée. Donc on a créé les premières machines qui automatisaient le séquençage de type Sanger, avec Donc c'est un séquençage qui permet de lire faire des petites lectures de quelques centaines de nucléotides et qui utilisent des grands volumes. Et c'est grâce à ces séquenceurs-là qu'on a, par exemple, séquencé le génome humain. Au cours des années 2000, est apparue une nouvelle génération de séquenceurs, la seconde génération, qui, elle, permet toujours de lire des petites séquences d'ADN, quelques centaines de nucléotides, mais qui est capable de faire ça dans des volumes extrêmement réduits, et donc on peut paralléliser tout ça et faire des millions de réactions en parallèle. Et c'est grâce à ce type de séquenceur qu'on a une explosion du séquençage de génomes de tout type d'organismes. Et puis, plus récemment, est apparue la troisième génération de séquenceurs qui présente un certain nombre d'avantages. Tout d'abord, c'est des séquenceurs qui séquencent des molécules uniques, pas besoin de grandes quantités d'ADN. Ils peuvent lire, non pas des petites séquences, mais des très grandes séquences d'ADN. Ils peuvent lire un chromosome d'une extrémité à l'autre. Et ils peuvent le faire en temps réel. Dernier avantage, le séquenceur de Oxford Nanopore, qui est représenté ici, est un séquenceur portable. Il fait la taille d'une grosse clé USB. On peut l'emmener partout. En écologie, on emmène ces séquenceurs sur le terrain pour pouvoir faire un prélèvement et immédiatement avoir la liste de tous les organismes présents dans un échantillon. Alors, ces premières démonstrations du stockage numérique sur ADN sur ces oligonucléotides ont montré que c'était faisable de stocker l'information sur ADN, mais ont montré un certain nombre de limites. Tout d'abord, ça utilise des mathématiques, de l'informatique, de la chimie et de la physique. Bien que l'ADN vienne du vivant, il n'y a pas de biologie dans toute cette technologie. Et les principales limites, c'est que ça marche, mais ça coûte extrêmement cher. La synthèse chimique d'ADN est devenue abordable pour des applications en biologie. Et pour stocker l'information numérique, il faut faire des volumes énormes. Vous avez vu 13,4 millions d'oligonucléotides. Il faut faire des volumes énormes de synthèse. Et le coût est trop élevé parce que c'est aujourd'hui supérieur à 1 000 $ le mégaoctet. Juste pour l'écriture. Par ailleurs, le taux d'erreur de la synthèse est relativement élevé. Et puis, l'édition ou la copie, elle est relativement limitée et coûteuse. Donc nous, notre vision, c'est qu'on a besoin de systèmes de stockage sur ADN qui soient plus performants. Et pour cela, on pourrait exploiter le potentiel du vivant, c'est-à-dire utiliser la biologie pour développer des nouveaux systèmes de stockage d'informations sur ADN. Parce que dans le vivant, il existe déjà, et ça se perfectionne depuis très longtemps, des technologies pour manipuler l'ADN, puisque le vivant utilise l'ADN comme support d'informations génétiques, il a développé aussi les technologies pour le manipuler, pour le copier, pour le lire, pour l'éditer, pour corriger les erreurs, pour avoir un accès direct aux données ou amplifier le signal. Donc notre idée serait que, grâce aux outils de la biologie de synthèse, on pourrait domestiquer, c'est-à-dire adapter ces technologies qui existent déjà, il n'y a pas besoin de les inventer, il faut juste aller les chercher et les adapter pour les utiliser pour le stockage d'informations numériques, pour développer de nouvelles technologies de stockage. Alors, dans le vivant, l'ADN, il n'est pas sous forme d'oligonucléotide simple brin. L'ADN, dans le vivant, il est sous forme d'un ADN double brin, qui est beaucoup plus stable. Et surtout, le vivant, il n'utilise pas des petits fragments d'ADN pour stocker les données. Il utilise des très grandes molécules, qui sont des plasmides ou des chromosomes, qui contiennent des milliers, voire des millions de lettres. Beaucoup plus efficace comme méthode de stockage. Et notre stratégie consiste à stocker l'information dans ce type de molécules, c'est-à-dire des molécules qui peuvent être manipulées par le vivant, qu'on appelle l'ADN biocompatible, et donc qui seraient manipulables par les technologies qui existent déjà dans le vivant. Le vivant ne manipule pas des oligonucléotides. Donc l'idée est d'utiliser des plasmides ou des chromosomes, c'est-à-dire des molécules d'ADN qui ont la même structure que celles qui existent dans le vivant pour pouvoir utiliser les technologies que le vivant a développées depuis 4 milliards d'années pour manipuler l'ADN. L'un des avantages, par exemple, c'est que si on utilise ce type de molécules, on peut copier biologiquement cet ADN, c'est-à-dire copier à très bas coût. Si je mets de l'information sur de l'ADN et que je la mets dans une bactérie, si je rajoute du sucre, elle me fait des milliards de copies de mon disque dur. Alors, pour faire ça, ça pose des contraintes. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure. C'est que, contrairement au stockage sur des oligonucléotides qui se fait hors du vivant, si on veut utiliser le vivant pour stocker de l'information numérique, on doit contrôler cette séquence d'ADN. Il ne faut pas que, par hasard, quand on convertit un fichier numérique en ADN, la succession des lettres crée quelque chose qui représente un danger, soit pour l'homme, soit pour l'environnement, soit même pour l'organisme dans lequel on manipule, parce qu'on perdrait les données. Et donc pour ça, il faut que cette séquence ADN ne code rien en termes d'information génétique. Il ne faut pas que la séquence ne puisse être exprimée dans un être vivant. Alors, vous avez ici à gauche le dogme central de la biologie. Donc, l'ADN est utilisé pour produire des ARN par le processus de la transcription. Et ensuite, ces ARN sont utilisés pour produire des protéines qui vont assurer les fonctions biochimiques, donc toute la chimie des êtres vivants. Et ce processus s'appelle la traduction. Et donc, pour pouvoir stocker de l'information numérique et la manipuler avec le vivant, il faut limiter la possibilité de coder des informations, donc empêcher la production d'ARN en enlevant les signaux qu'on connaît bien qui permettent de contrôler la transcription. On doit également limiter la production de protéines, donc on enlève les signaux qui permettent d'initier la traduction, donc la conversion des ARN en protéines. Donc on enlève les codons start, ceux qui permettent le démarrage, et puis on rajoute à très haute fréquence des codons stop au cas où il y ait une introduction par hasard, par une erreur d'un codon start quelque part. Et puis, comme on peut contrôler la séquence, on contrôle aussi le pourcentage en GC qui est important pour la stabilité de la molécule et la fiabilité de sa copie. Et puis on interdit des homopolymères. Les homopolymères, c'est-à-dire les successions de très grand nombre de A, T, C ou G consécutifs. Ça, on sait très bien dans le vivant que ça, c'est une source d'erreur, aussi bien à l'écriture qu'à la lecture. Et donc, dans notre ADN, on limite à pas plus de 3 répétitions de la même lettre afin d'éviter les erreurs. On peut aussi ajouter ou supprimer des séquences spécifiques qui nous permettent de faciliter la manipulation de l'ADN. Par exemple, des enzymes de restriction ou des sites de recombinaison. Donc, sur cette base-là, on a développé une stratégie de stockage qui est bio-inspirée, qui est en rupture avec les technologies existantes parce qu'elle n'utilise pas des oligonucléotides, et qui nous permet d'utiliser des longs fragments réplicatifs, c'est-à-dire qui peuvent être copiés dans le vivant, qui nous permet d'utiliser les dernières générations de séquenceurs qui peuvent lire ces très longs fragments. Cet ADN, il est à la fois biocompatible, manipulable par le vivant, et biosécurisé, c'est-à-dire qu'il code de l'information numérique, mais il ne code absolument aucune information génétique. On a donc développé une technologie qui s'appelle DNA Drive, qui est littéralement un disque dur ADN, qui a une capacité totale qui est illimitée, et qui peut permettre des approches biologiques, par exemple la copie à très bas coût, et avec une très forte redondance et un faible taux d'erreur. Et la copie, c'est une des opérations les plus utilisées pour les données. On passe notre temps à copier des données, à faire des sauvegardes, à répliquer ces données, et c'est une des problématiques centrales dans les data centers, la copie et la réplication de données. Si on peut la faire à un coût très bas, ce qui est le cas de la copie par la biologie, c'est un avantage important. C'est compatible avec toutes les technologies de séquençage, les dernières, mais aussi les anciennes. Et puis, on peut créer tout type de fichiers binaires. Donc, on organise les données sur l'ADN, on peut créer des tables d'allocation, des répertoires, des métadonnées sur l'ADN directement. C'est compatible avec toutes les technologies de compression, d'accès direct, de correction d'erreurs. La fabrication de ce DNA Drive est entièrement automatisable, puisqu'il y a des robots qui existent pour manipuler des liquides pour manipuler en biotechnologie, donc on peut utiliser ces robots qui existent déjà. Et puis, c'est très adapté pour l'archivage froid, pour remplacer au moins le stockage sur bande magnétique. Au-delà de ça, je vous ai dit qu'on organisait les données sur l'ADN. Donc, les données dans un disque dur. La plupart des gens que je rencontre ne savent pas comment les données sont stockées dans un disque dur. Donc dans un disque dur, que vous voyez tourner ici, avec sa tête de lecture, il y a plusieurs plateaux, ce qu'on appelle des plateaux. Et sur chaque face de ce plateau, il y a des données qui sont codées sous forme de magnétique. Et donc ces données sont organisées par pistes. Donc chaque face contient des milliers de pistes circulaires. Et chacune de ces pistes est découpée en secteurs. Donc il y a des secteurs qui contiennent les données. Ce sont ces secteurs qui contiennent les données. Et donc si on doit écrire des données, on écrit sur un secteur ou plusieurs secteurs si les données sont suffisamment grandes pour remplir un secteur, voire une piste entière ou plusieurs pistes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les molécules que nous on utilise, c'est des molécules d'ADN, mais c'est des molécules circulaires. Donc de la même façon que sur un disque dur, on organise les données sous forme de secteurs d'ADN. On a un secteur d'ADN qui est bordé par des index qui permettent d'accéder directement à ce secteur-là. Et puis sur une molécule circulaire, on met un très grand nombre de secteurs. Et puis, on met ensemble, non pas, on n'utilise pas une seule de ces molécules circulaires, mais on regroupe des milliers de ces molécules, donc c'est l'équivalent d'un plateau de disque dur, mais on peut en mettre autant qu'on veut, parce qu'on peut multiplier ces poules, et donc c'est ça qui fait que la capacité de ce data drive, elle est modulable et complètement illimitée. C'est comme un disque dur avec un nombre de plateaux illimité. Donc on peut faire des data drives pour des tout petits volumes ou des volumes gigantesques qui vont jusqu'aux états octets. Alors, une autre façon de le représenter, à présenter ici, donc en fait tous les paramètres de ce DNA drive, que ce soit la taille des secteurs, le nombre de secteurs par piste, le nombre de pistes par poule, etc., etc., est modulable. C'est ce qui en fait un disque dur ADN à capacité variable et illimitée. Alors, ces travaux ont été développés dans le cadre au sein de mon laboratoire de biologie synthétique, et donc on a mon laboratoire est filié à CNRS et à Sorbonne Université, donc avec ces partenaires-là et avec la SAT Lutec qui nous accompagne pour les aspects d'innovation, on a déposé un brevet pour protéger cette invention DNA Drive. Et la suite logique a été de créer une entreprise, donc une start-up, qui s'appelle Biomemory, que j'ai créée avec Pierre Crozet, collaborateur. Membre de mon équipe et maître de conférence à Sorbonne Université, et Erfan Arwani, qui est ingénieur en informatique et entrepreneur du numérique. Donc tous les trois, nous sommes associés pour créer cette entreprise, qui est donc un spin-off de Sorbonne Université du CNRS, qui a été créé en juillet 2021, et dont la mission est de proposer un stockage sur ADN qui soit économiquement viable en data center, avec une empreinte carbone qui soit nul ou négligeable. Alors, c'est bien tout ce que je vous ai expliqué, mais ça reste très théorique. Et donc, l'étape suivante a été de démontrer que ça marche, de stocker vraiment des données sous forme de DNA drive. Pour ça, on a développé un projet qui s'appelle la révolution de l'ADN, en jouant à la fois sur la révolution technologique du stockage sur ADN et la révolution française, en partenariat avec les Archives nationales. Et on a donc choisi de stocker des textes à haute valeur symbolique et historique de la Révolution française, à savoir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est inscrit au programme Mémoire du monde de l'UNESCO, et dont les Archives nationales possèdent l'original. Et on a choisi d'y ajouter la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est un texte non institutionnel rédigé par Olympe de Gouges en 1791. Ça nous intéressait aussi d'avoir une démarche pluridisciplinaire et d'associer des biologistes et des informaticiens, ce qui est logique, mais aussi des historiens, des philosophes, des archivistes à notre démarche. On a fait ça en partenariat avec des partenaires institutionnels, en premier lieu les Archives nationales, Sorbonne Université, CNRS, et la SAT Lutec, mais aussi des partenaires industriels, donc Twist Bioscience, qui est un des leaders mondiaux de la synthèse ADN, qui est basé à San Francisco, mais dont la PDG est française, et Imagen, l'entreprise qui a développé la technologie d'encapsulation de l'ADN, et bien sûr Biomemory. Alors, on a d'abord encodé sur un DNA drive, celui que j'ai dans la main, la déclaration de droits de l'homme et du citoyen. Donc, on a encodé le fichier, on a créé ce DNA drive, on l'a encapsulé, puis on a rouvert ces capsules, relu le fichier et vérifié qu'on pouvait relire le fichier à 100%. Et comme c'est un disque dur de très grande capacité, donc cette petite capsule, elle peut contenir 5000 téraoctets de données. Donc on a stocké le même fichier, parce que l'écriture coûte cher, mais on a stocké le même fichier un très grand nombre de fois, donc on a mis 100 milliards de copies du fichier dans cette capsule. On a fait la même chose avec le second texte, la déclaration de la femme et de la citoyenne. On l'a encodé sur ADN, encapsulé et relu à 100% de fois. Et ça veut dire que ces deux textes sont désormais sauvegardés pour des dizaines de milliers d'années sans aucun apport énergétique. C'est-à-dire qu'on ne perdra pas ces textes. Si je récapitule le procédé global, donc on part d'un fichier qui est binaire. Peu importe la nature du fichier, ça peut être du texte, de l'image, de la vidéo, du programme informatique, n'importe quel fichier binaire. On l'encode, donc d'abord on le compresse numériquement, exactement comme ce qu'on fait pour faire un zip, on compresse les données, et puis on les encode avec notre algorithme qui permet de créer cet ADN qui est à la fois biocompatible et biosécurisé. Ensuite, l'ADN a été écrit, donc là on a fait des petits fragments d'ADN, puisque c'est la seule technologie disponible actuellement pour synthétiser de l'ADN, donc on a fabriqué cet ADN, c'est Twist Bioscience qui a fait ça, puis ensuite on a assemblé ces petits fragments pour en faire des très grandes molécules biocompatibles, et on les a introduits dans des êtres vivants, donc des bactéries, pour les amplifier. Et donc on a fait 100 000 milliards de copies de ces molécules. Et ensuite, on les a, imagine, les a encapsulées à l'abri de l'eau, de l'air et de la lumière pour qu'elles soient stables pendant plus de 50 000 ans. Et pour le relire, on utilise un séquenceur. On a utilisé le petit séquenceur de poche que je vous ai montré, qui permet en quelques heures de relire les données. Une fois qu'on a fait ça, on décompresse le fichier et on récupère le fichier d'origine à 100%. Donc, dans le cadre de cette preuve de concept, on a travaillé avec les archives nationales qui ont enregistré officiellement ces deux DNA drives, donc ces premières archives encodées sur ADN. Donc, c'est la première institution mondiale qui se dote d'une partie de ces archives sous forme ADN. Réalisé cette première mondiale pour une institution publique et fait une conférence de presse en novembre dernier pour stocker dans ce coffre-fort. Alors, il faut que je vous raconte un peu l'histoire de ce coffre-fort. Donc, ce coffre-fort, ça s'appelle l'armoire de fer. Donc, les archives nationales ont été créées en 1790, au moment de la Révolution française. Avant, il n'y avait pas d'archives nationales. Et les créateurs ont souhaité doter les archives nationales, d'un coffre-fort qui devrait stocker les documents les plus précieux des archives nationales. Donc c'est ce coffre-là, il est toujours le même, il est toujours là aux archives nationales, qui date de 1790, et qui stocke tous les documents les plus précieux et symboliques de l'histoire de France, du testament de Louis XIV, du journal de Louis XVI, celui où lequel il a écrit 14 juillet, rien, parce qu'il ne s'était rien passé, parce qu'il n'était pas à la chasse ce jour-là. La dernière lettre de Marie-Antoinette, la Constitution, et bien sûr, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, l'original de 1789. Et donc désormais, la forme ADN a été déposée à côté de l'original dans l'armoire de fer. Alors pour finir, l'aventure continue, puisque notre objectif, c'est de rendre cette technologie accessible et économiquement viable. Donc, pour l'instant, ça marche, mais ça coûte très cher, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, nos principaux objectifs chez BioMemory, c'est de réduire le coût et d'augmenter le débit. Actuellement, il faut plusieurs jours pour écrire et quelques heures pour relire. L'objectif étant de réduire drastiquement, descendre en dessous des 24 heures dans un premier temps, pour l'écriture et descendre sous l'heure, voire arriver à quelques minutes pour la lecture. Pour ça, on suit trois axes de recherche et développement assez classiques, l'automatisation, la miniaturisation et la parallélisation. En plus de ces objectifs qui visent à réduire les coûts et augmenter le débit, on a des objectifs complémentaires qui touchent plus au domaine de l'informatique. Notamment, il faut qu'on développe des systèmes de fichiers qui soient adaptés à notre support, le DNA Drive. Pour l'instant, on utilise les systèmes de fichiers qui ont été développés pour les supports classiques, disques durs en particulier. Et on pourrait développer des systèmes de fichiers qui soient plus adaptés au stockage sur ADN. De la même façon, on utilise des codes correcteurs d'erreurs qui sont standards, qui sont ceux utilisés en informatique, mais on pourrait avoir des codes correcteurs plus performants si on les adaptait à nos contraintes. Et donc, on travaille en particulier avec le laboratoire d'informatique de Paris 6 pour développer ces systèmes de fichiers et ces codes correcteurs d'erreurs qui sont à un stade relativement avancé maintenant. Deuxième aspect, c'est la sécurité des données. Si vous voulez stocker des données sur ADN et que ces données sont stables pendant extrêmement longtemps, si vos données sont sensibles, vous ne souhaitez pas que les futurs ordinateurs qui vont arriver puissent lire ces données. Et on nous promet bientôt que l'ordinateur quantique va arriver, qu'un ordinateur quantique est capable de casser en quelques minutes les codes de cryptographie qu'on utilise actuellement pour sécuriser nos données. Et donc, on travaille avec CryptoNext Security, qui est aussi une spin-off de Sorbonne Université, qui a développé des algorithmes de cryptographie post-quantique. Post-quantique, ça veut dire des algorithmes qui résisteront à l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique ne pourra pas déchiffrer. Si on veut stocker des données pour des milliers d'années et qu'on veut les sécuriser, il faut passer par ce type de cryptographie. Voilà, j'en ai fini. Merci à vous de votre attention.
Merci beaucoup. Très impressionnant, quand même. Je pense qu'il va y avoir des réactions dans la salle. J'en ai déjà sur Internet. Est-ce qu'il y a des questions directes à poser ? Oui ?
Oui, bonsoir. Merci pour la conférence. Vous dites que vous avez développé un langage pour éviter des chaînes de caractères, des chaînes codantes, mais avec les erreurs lors de la réplication des bactéries, il n'y a pas risque que des codons start apparaissent.
Alors si, il y a un risque qu'il y ait des codons start, c'est-à-dire qu'il y a, plusieurs niveaux de sécurité, il n'y en a pas un seul. Si on se contentait d'enlever les codons start, bien sûr, codon start peut apparaître. C'est pour ça que j'expliquais que dans le cas précis de la traduction, on enlève les starts, mais on rajoute des stops à très haute fréquence partout. Enfin, s'il y a un start qui apparaît quelque part, de toute façon, la séquence va s'arrêter assez rapidement puisqu'il y aura un stop.
Oui, mais avec des millions et des millions de réplications, il n'y a pas un risque un jour d'arriver à la production de...
Après, les données numériques, on les réplique pas des millions de fois. On peut les répliquer un certain nombre de fois, mais le taux d'erreur est suffisamment bas pour que la fréquence de mutation ne puisse pas induire ce type de mutation. Il faudrait les faire évoluer longtemps. Juste une précision, c'est qu'on utilise le système biologique pour faire une copie, à un moment, ou deux copies, ou 10 copies, ou 100 copies. Mais après, on ne maintient pas cet ADN dans le vivant. Si on le maintenait dans le vivant, effectivement, il pourrait y avoir un risque de dérive parce que les organismes continuent à se multiplier. On fabrique ce polymère avec le vivant, mais ensuite on l'extrait et on le stocke de manière inerte. Et là, il n'y a pas de mutation associée.
Quel type de bactéries vous utilisez ?
On utilise Escherichia coli, qui est la base de la manipulation de toute la génétique moderne. C'est-à-dire n'importe quel ADN qui est utilisé pour n'importe quelle application est passé à un moment dans Escherichia coli, tout le génie génétique et toutes les modifications sont faites chez essentiellement, je ne voudrais pas dire uniquement, mais essentiellement chez cette bactérie qui est la Rolls-Royce de la manipulation de l'ADN.
Quels sont ces non, parce que ça m'intéresse, je peux m'en procurer éventuellement. Quel est l'avantage de cette bactérie sur les autres ?
Elle pousse extrêmement vite. Comme c'est celle qu'on a beaucoup étudiée, les connaissances qu'on a sur cette bactérie font que on sait la manipuler, la modifier. Donc il y a eu énormément de modifications génétiques dessus pour permettre de stabiliser l'ADN qu'on introduit dedans pour en faire des grandes quantités, pour l'extraire facilement. Donc, elle a été modifiée génétiquement pour permettre une manipulation facilitée. Et comme elle pousse extrêmement vite, c'est très facile de l'utiliser pour manipuler l'ADN.
Est-ce qu'elle elle est simple ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette bactérie ? Je ne sais pas, ça m'étonne quand même.
Sa croissance rapide. La plupart des bactéries sont une croissance relativement lente. Donc, la croissance de Escherichia coli est un gros avantage. Mais c'est comme dans tous les domaines du vivant. Alors, si vous regardez sur les microalgues, donc on ne travaille pas sur toutes les espèces de microalgues, on travaille sur une espèce de microalgue qui est l'organisme modèle, donc dans tous les clades de l'évolution, on a des organismes modèles. Pour les arbres, c'est le peuplier. Pour les algues, c'est Chlamydomonas. Pour les bactéries de ce type, c'est Escherichia coli. Pour les levures, c'est Saccharomyces cerevisiae, la levure de boulangerie. Et donc, on a un organisme qu'on connaît beaucoup mieux que tous les autres et qu'on sait manipuler beaucoup mieux que tous les autres. Et donc, pour les bactéries, c'est Escherichia coli.
D'accord. Alors, je vais prendre une question d'internaute. Alors, êtes-vous les seuls à proposer à travailler sur une telle technologie, demandons ?
Alors, non. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a un certain nombre d'acteurs du domaine du numérique. Donc, on fait partie d'une alliance qui s'appelle la DNA Data Storage Alliance, qui regroupe une cinquantaine de groupes académiques et d'entreprises, que ce soit des toutes petites entreprises comme Biomemory ou des géants tels que Microsoft, Western Digital, Dell, donc soit des utilisateurs de données, soit des fabricants de supports, de disques durs, de bandes magnétiques, mais également des petites entreprises comme Biomemory qui visent à développer des technologies de stockage sur ADN. Par contre, l'originalité de ce que nous on fait, c'est qu'on est les seuls à avoir cette approche biologique. Je vous l'ai montré, tout le monde utilise ces petits fragments d'ADN, ces oligonucléotides, qui sont faits avec de la chimie. La chimie qui est faite avec des solvants et qui est entièrement pétro-sourcé, donc qui n'est pas très éco-friendly. On utilise, de la biologie. Et donc, on est les seuls à avoir ce type d'approche basée sur l'utilisation des technologies de la biologie pour faire du stockage sur ADN.
Il y a une autre question qui touchait justement à l'application après. Au début, certains internautes croyaient que vous vous limitiez au stockage, mais évidemment, c'est intéressant que si on peut relire. Et est-ce qu'il y a des... Donc, vous n'êtes pas limité au stockage, il y a aussi de la relecture. Et pour ce faire, est-ce qu'il y a des algorithmes particuliers qui ont été adaptés pour cela, ou est-ce qu'on a utilisé, vous avez utilisé
Alors, en fait, des algorithmes existants ? Comme j'ai essayé de vous le montrer, la lecture d'ADN, le séquençage d'ADN, c'est quelque chose qu'on sait relativement bien faire maintenant. Ça a énormément progressé. Hein. Il a fallu 10 ans pour séquencer le génome humain. Maintenant, il faut quelques heures, je veux dire, si je suis
beaucoup plus rapide que le codage, apparemment.
Et donc c'est pas la lecture qui est la limite, c'est l'écriture, en fait. L'écriture est encore très lente. La lecture est relativement rapide. Mais pour les types de données qu'on souhaite remplacer, les WARN, la lecture d'une bande magnétique, c'est pas rapide. Pour lire la bande magnétique qui est ici, il faut 5 heures pour relire ces données-là, pour les remettre en ligne. Donc, on est dans le même ordre de grandeur. Ce type de données-là, ces types de données froides, on veut les stocker et on veut être sûr qu'on pourra les relire. Mais on n'a pas forcément besoin d'avoir un accès en quelques millisecondes, comme sur un disque dur. On a besoin de pouvoir les relire au cas où, mais les stocker de façon non énergivore. Le problème d'une bande magnétique, si vous regardez la notice à l'intérieur, vous verrez qu'elle doit être stockée à moins de 25 degrés. Ouais. Et donc, la consommation énergétique de data center, on pense aux disques durs et à l'électricité pour les faire tourner, mais c'est essentiellement le refroidissement pour maintenir les bandes magnétiques et les disques durs à la bonne température.
Combien, là ?
Pardon ?
Combien vous pouvez stocker là-dedans ?
Alors, celle-ci, elle fait 6 téraoctets. Ah oui. Le maximum, c'est 18 téraoctets sur une bande magnétique.
Alors, pour l'anecdote, moi, je me souviens, excusez-moi, quand j'étais au CERN en 77, jusqu'à dans les années 80, évidemment, les ces accélérateurs de particules produisaient des données faramineuses tous les jours. Il y avait effectivement ces grandes bandes magnétiques qui étaient grandes comme ça, qui étaient sur des racks. Et je me souviens parfaitement qu'il fallait les relire périodiquement pour éviter la que chaque couche magnétise l'autre. Enfin bon, et c'était, ça prenait un temps fou, simplement pour la manutention.
Tout à fait, c'est ce que l'ADN pourrait éviter. Une fois qu'on a écrit les données dessus, on n'a plus besoin de maintenir ces données-là, on n'a plus besoin de les refroidir, et on pourra les relire même dans 2, 3, 4, 5 000 ans.
Bon, il faut attendre. D'autres questions ?
Merci, bonsoir. Merci pour cette conférence. Vous utilisez donc un alphabet qui a 4 lettres et je me demandais s'il était possible que les bactéries puissent aussi synthétiser des bases qui éventuellement n'existent pas pour leur propre ADN et utiliser donc un alphabet qui aurait plus de 4 lettres, peut-être 6, 8, pour le stockage de l'information.
Alors en fait, on l'a déjà fait. Donc les biologistes l'ont déjà fait. Donc naturellement... Il n'existe pas d'organisme qui utilise ce type de base modifiée, mais on peut créer artificiellement de l'ADN avec, il y a un exemple récent à 8 lettres, et l'alphabet peut être étendu en utilisant des variants de ces A, T, C, G, on utilise un A', un T', un C', un G', etc. Et donc on pourrait imaginer à effectivement encoder de façon beaucoup plus dense en utilisant ce type de base modifiée. Le problème, c'est que ces bases modifiées, elles ne sont pas compatibles avec les technologies qui existent dans le vivant. Donc si vous voulez copier cet ADN ou si vous voulez l'éditer, etc., il faut réinventer d'autres technologies et donc l'avantage est créer un inconvénient. Donc on se limite pour l'instant à ces 4 bases parce qu'on veut garder un ADN qui a la structure du vivant et donc compatible avec les technologies qui existent dans le vivant.
Si je comprends bien, vous ne pourriez pas utiliser comme support une bactérie pour transmettre de l'information.
C'est ça. On peut utiliser des lettres et on pourrait le faire, mais ce serait relativement limité.
Oui, la bactérie ne comprendrait pas. Voilà.
Mais après, on n'exclut pas que d'ici 3, 4, 5 ans, on puisse développer une bactérie, puisqu'on peut les manipuler génétiquement, qu'on pourrait lui apprendre à décoder ce type de lettres.
Il faut dompter les bactéries. Mais je renvoie quand même à une conférence qui carte blanche, la première de l'année, qui a été faite par Marie-Christine Morel, invitée par Jean Audouze aussi, le troisième mardi du mois de janvier. Origine de la vie et de la xénobiologie, pour ceux qui veulent avoir une information complémentaire, où elle expliquait tout à fait comment on arrive à augmenter les capacités.
Ce domaine de création de lettres de base artificielle s'appelle la xénobiologie, donc c'est de la biologie qui est étrangère au vivant, mais qu'on peut utiliser pour manipuler des molécules du vivant.
Qui sont stables, apparemment.
Qui sont stables, mais qui... Alors, au-delà de ça, il faudrait qu'on soit capable de relire ces molécules, parce qu'un séquenceur, il lit ATCG, mais il ne peut pas lire d'autres choses. Donc, il faudrait réinventer un séquenceur. Alors, avec un séquenceur nanopore, on pourrait imaginer le faire. On commence à être capable de lire les modifications épigénétiques en particulier. Mais il faudrait développer tout ce qui va autour et qu'on a déjà développé pour l'ADN. Donc, on perdrait quand même des années de développement. Pour l'instant, on se contente sur les 4 lettres.
Alors, si vous voulez bien, j'ai une question parce que j'ai quelque chose que je n'ai pas comprise. Vous proposez dans un premier cas de coder A correspond à 0,0, C correspond à 0,1, etc. On voit très bien. Et l'autre technique, c'est un bit par base. A égale C égale 0, T égale G égale 1. Mais alors là, je ne vois pas l'intérêt. Il y a une dégénérescence. Si A et C ont la même valeur, je comprends pas.
Si vous lisez un A, ce sera un 0. Si vous lisez un C, ce sera un 0 aussi. Ça ne pose pas de problème ni à l'écriture, ni à la lecture. À l'écriture, le problème que ça vous pose, c'est qu'à l'écriture, quand vous écrivez un 0, il faut choisir soit A, soit C. Et puis quand vous écrivez un G, il faut...
Mais à l'inverse, si vous avez T ou...
On perd de la densité, mais ça ne pose pas de problème. Si vous lisez un A, c'est toujours un 0. Si vous lisez un C, c'est toujours un 0. Si vous lisez un T, c'est toujours un 1. Si vous lisez un G, c'est toujours un 1.
D'accord.
Donc ça ne pose pas de problème. Mais par contre, ça a des avantages. Parce que si vous voulez enlever certaines séquences et interdire certaines séquences, vous êtes obligé de faire comme ça. Parce que si vous avez, par exemple, je vous ai dit, les homopolymères, c'est un problème. Si vous avez, en informatique, il y a énormément de fichiers qui contiennent des longues listes de zéros. Si vous voulez coder les zéros avec un 2 bits par base, vous faites une série de A gigantesques qui vous n'arriverez pas à relire ni à écrire. Alors que si vous faites ça avec un code à 1 bit par base, bah vous pouvez mettre AAC, AAC, CAAC, etc. Et ne jamais avoir la répétition, et ça code quand même que des zéros.
C'est ça. Il y a des questions d'internautes qui concernent cette technologie et ce qu'elle coûte. C'est-à-dire comment les gens, je ne sais pas ce que Jean veut dire ici, mais peuvent investir dans cette technologie indépendamment des grandes institutions. Peut-être que ça se réfère à votre start-up. Enfin, quels sont en gros les coûts, quoi ? Quels sont les problèmes d'investissement que ce genre de technologie...
Ce genre de technologie, comme toutes les technologies, toutes les biotechnologies, coûte extrêmement cher.
Oui.
Arfan Harmani pourrait en témoigner de nombreuses fois. Mais si on parle du coût de la technologie, je vous ai dit, pour l'instant, c'est plus de 1 000 dollars le mégaoctet. Donc nous, chez BioMemory, on a développé de nouvelles technologies qui sont encore non publiques, et donc je ne peux pas vous parler, mais qui permettent de réduire ce coût de l'ordre du dollar le mégaoctet, ce qui est bien, mais qui est loin d'être suffisant. Il faut réduire encore 1 million de fois ce coût et être compatible avec les bandes magnétiques. Donc, une bande magnétique, c'est 17 dollars le téraoctet de données. Donc, il faut, si on veut pouvoir remplacer les bandes magnétiques, au moins être proche de ce coût-là. Et on a une feuille de route, ce n'est pas juste une idée, on a une stratégie pour atteindre ce type de coût. Dans les prochaines années. Alors, je parle de déployer cette technologie en data center. On parle d'une technologie viable et économiquement viable à l'horizon 2030.
2030, oui. Alors, ce support est stable, mais quand même sensible à la température. Vous pouvez détruire.
Je vous ai dit, vous pouvez faire bouillir de l'ADN, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez le mettre à 100 degrés.
Oui, mais enfin 500, 600, oui.
Ah oui, c'est pas insensible à des températures supérieures à 150 degrés, donc ça doit être stocké dans une armoire.
C'est ça. Si vous stockez sur du titane, ça marche, c'est quand même moins sensible à la température. Mais c'est compliqué.
Oui, c'est beaucoup plus difficile. D'accord.
Donc la gamme de température pour la stabilité, c'est ça, c'est entre 0
jusqu'à 150 degrés. Ouais.
Ouais, d'accord.
Mais ça permet de stocker n'importe où sur Terre à température ambiante. Donc c'est l'objectif.
D'autres questions ? Allez-y.
Par rapport à ce que vous disiez à la fin sur l'ordinateur quantique, je voudrais avoir votre sentiment. Est-ce que vous avez une vision de ce que ça pourrait être industriellement à 10, 20 ans peut-être, dans l'idéal, quel scénario vous envisagez pour cette technologie-là?
Alors, je ne suis pas un expert, donc je ne vais pas me prononcer. C'est de cet ordre de grandeur-là ou moins, on va dire. C'est pas dans 50 ans. Voilà, c'est d'ici... D'ici 10 à 20 ans, on pense que oui, ce sera une réalité. Après, il y a eu des annonces de certains grands groupes comme quoi ils avaient déjà un ordinateur quantique fonctionnel. On n'a pas vu encore fonctionner, mais on peut imaginer que d'ici 10 ans, il y en aura, et peut-être même avant. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là, donc je ne peux pas me prononcer plus que ça.
J'ai plus de questions saillantes de la part des internautes. Je me demandais quels sont les liens que vous avez. Enfin, on imagine que vous avez dû être approché ou vous devez être approché par pas mal d'industriels qui ont envie de, ou attendent-ils un petit peu que les choses soient plus stabilisées?
Alors, pour l'instant, les industriels attendent de voir. Je vous ai dit, ça coûte encore cher. Je pense que les industriels commenceront à s'y intéresser à partir du moment où ce sera plus viable économiquement. Parce que si on leur dit que ça coûte 1 000 $ le mégaoctet, ça n'intéresse personne. Mais si on arrive au dollar, ça peut commencer pour certaines données très sensibles ou très sécurisées, ça peut commencer à être intéressant. Et puis, il faudra descendre 1 000 fois en dessous pour avoir un impact plus large. Pour l'instant, ça intéresse un certain nombre d'institutions publiques. Ça intéresse stratégiquement des investisseurs qui investissent sur le long terme. Je vous ai parlé tout à l'heure des membres de l'alliance Microsoft, Western Digital, Fuji, Dell. Ils s'intéressent à cette technologie-là. Ils investissent modérément, mais ils investissent quand même pour soutenir le domaine. Alors, ce n'est pas forcément eux qui font la recherche directement, mais c'est des petites entreprises, des startups issues de Harvard, de Berkeley, de Sorbonne Université, qui essayent de développer cette technologie-là. Et puis, mais ils gardent un œil sur cette technologie-là pour pouvoir influer sur son développement et être prêts au moment où elle sera disponible. Et donc, il y a beaucoup d'industriels du domaine qui croient en cette technologie, au potentiel offert par l'ADN, parce que les bandes magnétiques ou les disques durs, ils atteignent une limite physique. Donc, on ne peut pas descendre, faire quelque chose de plus dense. Et l'ADN est capable de casser cette barrière de limite physique puisque c'est du stockage moléculaire. Donc, il y a un intérêt. Alors, il y a un intérêt des investisseurs, mais il y a aussi un intérêt des industriels pour surveiller ce qui se passe et être prêt à réagir au moment où la technologie arrivera à maturité.
Oui, parce qu'on le voit dans votre premier ou deuxième slide, quand vous regardez les domaines qui sont énergivores, qui ont besoin de beaucoup de données, on peut identifier, si on revient en arrière, si vous voulez bien, quel est le domaine qui aurait le plus besoin et soit le plus à
l'affût. En fait, tous les domaines que j'ai cités ont besoin. L'industrie... en général, stocke énormément de données. La finance, les banques stockent énormément de données. Donc, les banques ont des gigantesques data centers. S'ils pouvaient les remplacer par du stockage ADN, et ils stockent des données pendant très très longtemps. Donc ça intéresse conceptuellement, ça intéresse tous ces acteurs, et en particulier services. Tous ceux qui ont des archives. Si je parle des domaines des archives, donc on discute avec. Les archives diplomatiques, l'INA, la BNF, qui ont des gros volumes de données à stocker et qui commencent à se poser des questions sur le stockage sur ADN et les opportunités ou les difficultés que ça peut poser pour stocker des données à très long terme. Les archives nationales sont convaincues. On va continuer à travailler avec les archives nationales pour continuer à stocker leurs données.
On peut stocker tout ce que vous faites dans une journée. Tout ce qui se passe. On a le portable, hein, on peut stocker les données du portable pour chaque individu, on peut savoir ce qu'il faisait
en fait, toutes ces données, elles sont stockées quelque part dans un data center. Alors, elles sont d'abord stockées sur des stockages chauds, sur des disques durs. Et puis, petit à petit, plus les données sont vieillies, plus elles migrent vers des supports de plus en plus froids jusqu'à finir sur des bandes magnétiques qui, un jour... Mais elles ne sont pas effacées. Hein. Ouais, on garde tout.
Elles ne sont pas effacées. D'accord. Bon. Une question.
Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'application, c'est le stockage froid. Mais est-ce qu'on peut imaginer dans 50, 60, 70 ans de remplacer... les disques durs, les SSD par...
on peut tout à fait l'imaginer, ce qui...
Biologiquement parlant, je parle. Hein. C'est-à-dire vraiment, est-ce que voilà, biologiquement parlant, il y a une barrière, ou alors, pourquoi pas aller...
Non, ça en fait, un disque dur, l'accès aux données, c'est de l'ordre de la milliseconde. Donc, il faudrait être capable d'accéder à la séquence ADN de l'ordre de la milliseconde. Mais quand on voit les progrès... qui ont été faits sur les séquenceurs. Alors, il faudrait une rupture technologique, il ne faudrait pas faire de la même façon qu'on fait aujourd'hui. Mais il n'est pas exclu que dans quelques années, peut-être moins que ça, peut-être dans 10 ans ou 20 ans, il y ait un appareil qui permette de relire l'ADN en temps réel, voire de fixer l'ADN sur un support et d'être capable de le relire de manière optique, par exemple. tout est envisageable et donc on n'exclut pas du tout qu'un jour ça puisse le faire. Aujourd'hui, on ne voit pas comment ce serait faisable, donc l'application c'est vraiment le stockage froid, mais je rappelle que c'est 70% des données mondiales et selon les secteurs c'est entre 60 et 90% pour certains secteurs des données. Dans la finance par exemple, il y a le volume d'archives est beaucoup plus important.
Il y a une question qui est posée en ce qui concerne le décodage et la sécurité. Donc là, vous êtes encore dans un stade de recherche pour trouver les meilleures clés de sécurité possibles, c'est ça?
Oui. Justement, avec un certain nombre d'acteurs qui s'intéressent au stockage ADN et qui ont des données sécurisées sensibles, on commence à explorer cette question de comment sécuriser les données. Après, l'ADN, c'est particulièrement sécurisé. Ce n'est pas en ligne, ce n'est pas à câble, ce n'est pas facile à lire, il n'y a pas de... Donc c'est déjà intrinsèquement sécurisé, mais il faut que ce le soit plus pour que... Mais pour l'instant, c'est plus un problème mathématique qu'un problème biologique, donc on travaille plutôt avec des mathématiciens qui s'occupent de ces aspects-là, et nous, on se concentre sur la partie construction des molécules.
Très bien, là, je n'ai plus de questions du côté des internautes. Je ne sais pas s'il en reste ici. Non. Si vous n'en avez plus, il me reste qu'à vous remercier.
C'était merci beaucoup.
Très innovant pour nous tous. J'aime bien que je réalise que ça fait quand même déjà pas mal d'années que cette technique évolue quand même. Ça fait au moins une dizaine d'années, parce que j'ai compris les premières expériences.
Oui, en fait, ça a été fait une fois il y a 10 ans, une deuxième fois il y a 9 ans, une troisième fois il y a 8 ans, donc ce n'est pas énormément non plus. Tous les ans, il y a une ou deux essais, mais pour l'instant, ça n'a pas été vraiment fait à grande échelle, et surtout, c'est limité, je vous ai dit, 200 mégaoctets de données, c'est déjà une prouesse, mais 200 mégaoctets de données, c'est rien pour le domaine de l'informatique. Donc il faut vraiment franchir ce cap, être capable de stocker des téraoctets dans un premier temps, puis des hexaoctets, voire plus.
C'est ça, j'imagine que la littérature scientifique est abondante, c'est un sujet qui...
Pas énormément en fait, parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui travaillent sur ce domaine-là.
Donc on peut espérer que cette conférence et d'autres que vous
pour l'instant,
vous donnez...
ça reste relativement limité, voilà. Il y a... on va dire une quinzaine de laboratoires dans le monde qui travaillent sur ce domaine-là.
Vous avez stimulé d'autres vocations encore. Et en tout cas, merci.
Merci.
Rendez-vous le 21 juin pour une autre carte blanche. Et bonne soirée.